Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chers lectrices et lecteurs, on va dire, parce que nous allons parler littérature. Nous avons en effet avec nous au téléphone Aymen Garbi. Alors, est-ce que je prononce correctement ? Excusez-moi, déjà.
Oui. Absolument,
ça va,
oui.
C'est bon,
c'est bien ça.
C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on pourrait dire de vous que vous êtes l'écrivain tunisien de Montpellier, en quelque sorte.
C'est ça, oui, oui. J'ai passé quelques années à Montpellier et c'est une ville que j'affectionne particulièrement, oui.
Voilà, vous avez fait une résidence d'écriture, y compris. Alors, là, je vous contacte parce que ben, y a votre nouveau roman qui vient de paraître, le troisième publié en français, hein, le Centre d'appel des écrivains disparus. Alors, c'est publié chez un éditeur qui vous est fidèle, auquel vous êtes fidèle, je ne sais pas dans quel sens ça va, hein. Les éditions Asphalt, hein, qui sont spécialisées dans la littérature urbaine, on va dire.
C'est ça, oui, c'est réciproque, on est
voilà, c'est réciproque. Attachement réciproque entre un auteur et son éditeur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez, comment vous diriez, ou plutôt, excusez-moi, j'en bafouille, comment peut-on présenter le Centre d'appel des écrivains disparus ? Déjà un titre intrigant.
Oui, alors, ça commence par... Un adolescent qui a dans les 18 ans, qui vit en Tunisie, plus particulièrement dans la ville de Nabeul, qui est attiré par le cinéma français, par la littérature française, qui regarde une chaîne qui était captée en Tunisie à l'époque, qui s'appelle France 2, enfin qui s'appelle encore France 2. Et qui était capté à travers une simple antenne. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va finalement aller en France, plus particulièrement à Montpellier, donc une bonne partie de l'action du roman se passe à Montpellier, et après avoir fait des études de théâtre à Montpellier, il va revenir en Tunisie, il va travailler, il va être recruté dans un truc qui s'appelle le Centre d'appel des écrivains disparus, où il va interpréter en fait un écrivain, en l'occurrence Samuel Beckett, un écrivain que les Tunisiens vont appeler comme dans un centre d'appel pour discuter avec lui. Donc c'est un centre d'appel un peu littéraire, où les gens appellent gratuitement les grands écrivains français morts pour parler avec eux. Et le but de ce centre d'appel, c'est de vulgariser un peu la culture française aux Tunisiens. Alors, ça se passe entre... les actions du roman se passent entre 1998... et 2011, globalement, donc avant la révolution, sous le régime de Ben Ali, et notre personnage principal va vivre les problèmes de liberté d'expression en incarnant ce personnage-là. Et donc, bien sûr, il y a, à travers cette histoire-là, tout le rapport problématique que peut vivre un personnage fasciné virtuellement par une culture donnée et qui va la vivre dans la réalité et qui va donc avoir des problèmes sur le terrain, on va dire, qui va passer de l'idéal vers le réel, donc il va avoir beaucoup de problèmes à vivre ce passage-là.
Voilà. Alors, il y a plusieurs choses que vous dites, hein, qui concernent la société tunisienne, bien entendu, puisque vous connaissez quand même cette question-là. Sans parler de politique dans le détail, dans le déroulement de la politique, il y a un des personnages qui dit quelque chose de tout à fait intéressant. C'est un professeur que rencontre donc ce jeune, votre personnage, hein, le professeur Macni. Et il dit de lui qu'il enseigne une apologie incessante de la soumission intuition a plus influent que soi, en l'occurrence lui-même, le professeur. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ça ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous paraît au cœur de la société tunisienne ?
Ah, ça, c'est... c'est peut-être universel comme... Comme schéma, parce que c'est le mentor, ou c'est comment, pas le mentor, mais le mandarin, oui, qui est très condescendant avec ses étudiants, et puis qui est très avare en information, qui ne veut pas former vraiment ses étudiants comme il faut, peut-être par jalousie, peut-être parce que pas par égocentrisme, je ne sais pas. C'est universel, et en même temps, en Tunisie, c'est un vrai problème de passation du pouvoir ou du savoir. C'est un vrai problème entre les générations, entre les adultes et les jeunes. Voilà, il y a une rupture entre les adultes et les jeunes. Et on a l'impression que les adultes s'accaparent le pouvoir et ne veulent pas le donner ou ne veulent pas former les jeunes pour qu'ils
s'émancipent pour utiliser un terme un peu galvaudé, mais bon, c'est un peu de ça qu'il s'agit quand même.
Oui, oui.
Voilà. Alors, et puis, il y a d'autres choses. Alors, il y a un peu plus loin dans le livre, il y a un passage qui parle des rapports entre la Tunisie, les Berbères et la France. Et donc, c'est un dialogue entre le personnage et puis, on pourrait dire, un mentor français qu'il a rencontré, un certain Philippe Le Terrier. Et leur discussion... le personnage dit « Nous, les connards francophones, les Berbères dénaturés ». Hein, pourquoi on parle encore le français ? Pourquoi on aime encore ce pays ? Pôle d'attraction, hein, pôle d'attraction, mon cul. Et puis la réponse donc de son mentor. Moi, j'ai envie de retourner à la question et dire pourquoi les Français font ça ? Pourquoi venir ici ? Pourquoi essayer de convertir la population tunisienne à l'esprit français ? Alors, est-ce que vous avez une réponse aujourd'hui, même partielle à cela ?
À quelle question ?
Alors, aux deux questions qui sont posées, voilà, c'est quel oui. sens ça a ? Pourquoi il y a ce modèle, entre guillemets, de la France qui est répandu, comme ça, parmi l'intelligentsia tunisienne ?
Oui, alors ça, c'était... Donc, la question, c'était par rapport au Centre d'appel des écrivains disparus, qui était une organisation faire passer les idées françaises en Tunisie. Donc oui, alors les Berbères dénaturés, la réplique sur les Berbères dénaturés, c'est parce qu'en fait, historiquement, la Tunisie est un pays qui a été toujours occupé par des forces étrangères. Alors on dit que les habitants originaux sont des Berbères, après sont venus les Phéniciens de l'actuel Liban, ensuite sont venus les Romains, d'autres peuples entre guillemets envahisseurs, et donc c'est par rapport à ça, les Berbères dénaturés. La présence française en Tunisie, c'est moi je fais partie des francophones, je suis amoureux en fait de cette culture-là, de la culture française, de la liberté qu'on peut trouver chez certains écrivains, certains penseurs, certains artistes français. Mais ça reste quand même problématique, quoi, comme présence. Hein. Parce que c'est chez la population aujourd'hui, notamment aujourd'hui, il y a un vrai problème quand on... chaque fois qu'il y a un événement politique en Tunisie et que la France sort un communiqué pour exprimer son désaccord par rapport à ce qui se passe ou sa condamnation, etc., ça ne fait que qu'augmenter une conscience que la France comment on dit a toujours un esprit de colonisation, quoi.
Oui, oui, qu'on est dans une forme de néocolonialisme qui perdure malgré l'histoire, en quelque sorte.
C'est ça.
Oui. Alors, on se retrouve dans un petit moment, on fait une petite pause et puis on continue notre discussion autour de la Tunisie et surtout autour de votre œuvre.